Il existe peut-être un univers alternatif dans lequel on est tous des êtres positifs, dopés aux bonnes nouvelles et pleins d'optimisme. Le problème, c'est que le Cro-Magnon qui portait ces gènes-là s'est probablement fait bouffer par un tigre aux dents de sabre il y a 40 000 ans. Et du coup, malgré les millénaires d'évolution, dans notre univers à nous, on a un héritage bien différent, le biais de négativité. Notre expérience originelle du jour est différente de d'habitude. Cette fois, on ne s'intéresse pas à la mise en évidence d'un biais cognitif, on va plutôt chercher à comprendre d'où vient le biais de négativité. Pour ça, comme je disais à l'instant, il faut remonter quelques dizaines de milliers d'années en arrière. À l'époque, le monde entier, c'était un peu comme l'Australie aujourd'hui. Tout ce qui cherchait pas à vous tuer, cherchait probablement à vous manger. C'est là que le biais de négativité est très darwiniste. Entre deux néandertaliens par ailleurs similaires, celui qui prêtait plus attention aux signaux négatifs avait bien plus de chances de survivre.
Nous sommes à l'âge de Pierre.
Pierre ?
Présent.
Pierre ?
Présent.
Mettons que Guy se fasse piétiner par un mammouth en passant dans une vallée.
Comment ça se prononce ?
Guy ?
Bah ça a marqué Pierre Leblon, qui du coup évite de passer par cette vallée.
Et ça c'est Pierre, mais tout le monde l'appelle Leblon, mais pas devant lui.
Pierre le frisé, lui, il s'en va gambader gaiement dans la vallée, et il se fait piétiner à son tour. Du coup Leblon va se reproduire, et pas le frisé. De génération en génération, cette attention aux signaux négatifs va se transmettre, et c'est comme ça que le biais de négativité s'est ancré dans notre génome. Bon, avec ses péripéties à l'âge de Pierre, on n'a pas encore défini le biais de négativité. En tout cas pas dans sa version moderne. Ce biais, c'est notre tendance à réagir davantage aux événements négatifs, mais aussi à les retenir beaucoup plus efficacement. Par exemple, en 2019, dans le fameux monde d'avant, j'ai pris environ 120 fois l'avion. Sur ces 120 vols, environ une vingtaine ont été soit en retard, soit annulés. Et bah pour tout le monde, à commencer par moi, à chaque fois que je prends l'avion, il est en retard. L'occurrence a beau être fortement minoritaire, c'est celle qu'on retient. Donc, quand on fait le reproche aux médias de jamais parler des trains qui arrivent à l'heure, c'est en fait doublement injuste. Déjà, ils en parlent probablement un peu, mais on retient pas. Et puis, de toute manière, ça nous intéresse pas, et du coup, bah on le relève pas. Donc pas d'audience, et pas de lecteurs.
Heureusement, la glorieuse Corée du Nord parle du monde rendu parfait par le noble suprême leader.
Des recherches sur l'activité électrique de notre cerveau ont montré que les mauvaises nouvelles, et autres expériences traumatisantes, s'imprime directement dans notre mémoire à long terme. Alors qu'il faut qu'on reste pleinement concentré sur une bonne nouvelle pendant plus de 12 secondes pour qu'elle passe de notre mémoire tampon à cet échelon de long terme. Le mathématicien Daniel Bernoulli, celui du théorème, a mis à jour une application directe du biais de négativité au cœur du 18e siècle, l'aversion au risque. Il a proposé un jeu à des cobayes. Ils avaient le choix entre un gain immédiat de 800 euros à coup sûr et un tirage au sort qui leur donnait 85% de chance de gagner 1000 euros et 15% de rien gagner du tout. Ouais, à l'époque, c'était probablement pas des euros. Résultat, bien que l'espérance mathématique du deuxième choix soit meilleure, 850 euros, l'intégralité de son échantillon préférait les 800 euros garantis. C'est ce qu'il a appelé l'aversion au risque. Daniel Kahneman a obtenu le prix Nobel d'économie en 2002, entre autres pour ses recherches sur une autre variante du biais de négativité, l'aversion à la perte. Sans vouloir trop vulgariser ses travaux, on peut les résumer avec une expérience dont découle un théorème. Mettons qu'on joue à pile ou face avec une pièce non truquée et qui tombe jamais sur la tranche. Donc un vrai 50-50. Pile, je vous donne 20 euros, face, c'est vous qui me donnez 20 euros. Est-ce que vous joueriez ?
Répondez.
Bah d'après Kahneman, certainement pas. L'espérance de ce jeu est nulle, rien ne vous incite à tenter le diable. Du coup, la question c'est, à partir de combien est-ce que vous accepteriez de jouer ? Toujours d'après l'économiste, il faudrait que le gain soit au moins le double de la perte. Donc, pile, je vous donne 40 euros, face, c'est vous qui m'en devez 20. On est donc deux fois plus marqué par l'aspect négatif des choses que par leur côté positif. Mais les conséquences du biais de négativité s'arrêtent pas à l'argent. Kelly Goldsmith et Ravidar, des universités de Northwestern et de Yale, ont par exemple montré en 2013 que ce biais cognitif jouait sur notre motivation. Ils ont recruté un panel de 62 étudiants qu'ils ont répartis en deux groupes. Les deux groupes devaient résoudre des anagrammes. On leur donnait des lettres dans le désordre et ils devaient retrouver le mot caché. Par exemple, ETKBAS, basket. Pour le premier groupe, la règle c'était que pour chaque anagramme résolu, ils allaient recevoir 25 cents. On leur disait qu'il y aurait 6 anagrammes et aucune limite de temps, et que donc le gain maximum était de 1,50$. Pour le deuxième groupe, c'était l'inverse. Ils recevaient 1,50$ au début de l'expérience, et ils allaient devoir rendre 25 cents pour chacun des 6 anagrammes qu'ils n'auraient pas résolus. Toujours sans limite de temps. Le twist, c'est qu'il y avait 4 anagrammes tout à fait trouvables. Mais les deux derniers étaient affreusement difficiles. Donc l'expérience consistait pas à voir combien d'anagrammes chaque groupe allait résoudre, mais plutôt combien de temps ils allaient se casser la tête sur les deux introuvables avant d'abandonner et de retirer leur gain. Quand on y pense, c'est la définition même de la motivation. Quels efforts on va consacrer à une tâche ? Bilan, le groupe qui perdait de l'argent à chaque anagramme non résolu consacrait un peu plus de 15 minutes à bûcher, sans succès, sur les mots introuvables. Alors que le groupe qui pouvait gagner de l'argent n'y passait qu'un peu plus de 9 minutes. Tout le monde repartait avec 1$ et il était clairement démontré que d'éviter la perte était une meilleure source de motivation que d'aller chercher un gain. Toujours par la force du biais de négativité.
Avec enculage au pluriel.
Enculage.
Oui, et des mouches exclusivement.
J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous appliquez déjà les bonnes méthodes de vente, vous n'avez rien à changer. Du coup, je passe tout de suite à la conclusion ? Bon allez, vous inquiétez pas, je vais détailler un peu. Si vous avez déjà écouté ne serait-ce qu'un de mes podcasts, vous avez sans doute déjà entendu cette phrase. Parlez du problème, pas de votre produit. L'effet secondaire imprévu, c'est que comme on consacre l'essentiel du temps à identifier et creuser les problèmes, on se sert deux fois de la force du biais de négativité. D'abord, on va venir booster la motivation de notre prospect en mettant ensemble le doigt sur son problème. Pour ça, encore une fois, on va éviter le « qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ?». À la place, on va appliquer une méthode en 6 temps. Premièrement, on va venir lui présenter une histoire ultra pertinente centrée sur un problème que quelqu'un de comparable à lui a déjà rencontré. Par exemple, si je rencontre un directeur commercial, je peux lui dire que 13% des commerciaux réalisent 87% du chiffre. Deuxièmement, on va recontextualiser le problème. Dans mon exemple, je poserai une question simple. Qu'est-ce qui se passe si ton meilleur commercial s'en va ? Troisièmement, on va lui montrer le vrai problème, qui est plus important qu'il le pense. Si les autres 87% sont si peu efficaces, c'est parce qu'ils n'appliquent pas les bonnes méthodes. Par exemple, ils passent leur temps à vanter les mérites de leurs produits. Quatrième temps, on va étudier en quoi le problème impacte en profondeur son entreprise. Tu vois, ça veut surtout dire que tu rates beaucoup d'opportunités d'apporter de la valeur à tes prospects. Et du coup, tu peux pas atteindre tes objectifs de croissance et tes objectifs de marge. Cinquième temps, maintenant seulement, on va commencer à dessiner une solution. Et si tes commerciaux passaient plus de temps à explorer les problèmes pour pouvoir vendre des solutions et pas des tapis ? Et enfin, sixième temps, et pour conclure, on peut établir un plan d'action pour mettre en œuvre la solution. Assure-toi qu'ils s'abonnent tous à mon podcast. Évidemment, mon exemple est caricatural et un poil biaisé. Mais en suivant cette structure, non seulement vous serez mémorable, convaincant et motivant grâce au biais de négativité, mais surtout, vous pourrez conseiller vos prospects pour résoudre leurs problèmes. Ce qui est un petit peu le béaba de la vente.
T'avais dit qu'on allait utiliser deux fois le biais de négativité. C'est pour bientôt la deuxième ?
Merci pour la transition, Jean-Jacques. Une étude de Benjamin Hilbig, de l'université de Mannheim, a démontré qu'on avait tendance à trouver beaucoup plus crédibles les mauvaises nouvelles que les bonnes. Il a par exemple présenté une même statistique de deux façons différentes à deux panels représentatifs. Dans le premier groupe, il disait que 80% des mariés étaient toujours mariés après 5 ans de mariage. Dans le deuxième groupe, par contre, il annonçait que 20% des mariés divorçaient avant de les atteindre, ces fameux 5 ans de mariage. Et bien 83% du panel trouvait la deuxième formulation crédible, contre seulement 56% pour la première. L'explication est toute simple. La crédibilité qu'accorde notre cerveau à une information est directement proportionnelle à l'attention qu'il y consacre. Or, par biais de négativité, on accorde plus d'attention aux mauvaises nouvelles, donc on les croit aussi davantage. Donc, quand on parle des problèmes de nos clients et pas de notre produit, on est aussi plus crédible. CQFD. On est, de façon évolutionniste, des boules de pessimisme nourries par le biais de négativité. Mais c'est pas une malédiction, et on peut activement faire la démarche de s'attacher au bon côté des choses. Je vous ai dit qu'il fallait se concentrer activement sur une bonne nouvelle pendant au moins 12 secondes pour qu'elle s'imprime dans notre mémoire à long terme. C'est sûr, c'est 12 secondes de plus que pour une mauvaise nouvelle. Mais c'est quoi 12 secondes sur l'échelle d'une journée ? Allez, on oublie la vente une seconde pendant que vous vous abonnez et que vous partagez cet épisode avec un ami, un proche ou un comptable. Je vous laisse vous concentrer 12 secondes sur la bonne nouvelle de votre choix. Ensuite, bah gardez le sourire toute la journée. À bientôt. I can't see you.